Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'eau en France, du scandale des eaux minérales au stress hydrique prévu à l'horizon 2050. Eh bien, on fait le point. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Cette affaire à présent concernant les eaux en bouteille. Il s'en vend 9 milliards de litres chaque année en France et des industriels sont accusés d'avoir utilisé des traitements illégaux pour masquer une contamination.
Et plusieurs marques sont concernées, et pas des moindres. Perrier, Vittel, Épar, Contrex, Saint-Yor. Le groupe Nestlé Waters aurait donc trompé les consommateurs. De surcroît, quand elle n'est pas contaminée, l'eau est une ressource menacée. Selon un rapport du GIEC, environ la moitié de la population mondiale subit de graves pénuries d'eau. Certaines villes la rationnent déjà. Alors qu'en est-il dans notre pays? Quelles sont les projections pour la France à 2050? Pourrons-nous arroser les jardins, remplir les piscines l'été prochain? Eh bien justement, on fait le point avec nos invités. Esther Crozer-Delbourg, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce métier?
C'est simplement la science de l'économie entièrement consacrée au problème des ressources en eau. Ça fait 15 ans que je fais de l'économie et je ne parle que d'eau. Je n'étudie que l'eau et mon but, effectivement, c'est d'utiliser tout ce qu'on peut pour préserver nos ressources et nos économies en même temps.
C'est un métier d'avenir?
Tout à fait, du passé, du présent et puis...
Exactement. Un métier intemporel, on l'aura bien compris, car c'est une question essentielle que l'on aborde ce soir. À vos côtés, vous le connaissez, Simon Porcher, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes professeur, Simon, professeur des universités en sciences de gestion à l'université Paris-Panthéon-Assas. Vos travaux portent justement sur la gestion et la tarification des services publics de l'eau. On va voir qu'effectivement, on parle aujourd'hui de l'or bleu. Quand on parle de l'eau, vous nous expliquerez aussi pourquoi. On a l'impression que ça coûte cher aussi, enfin bon, bref, on en parlera. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage, La fin de l'eau, point d'interrogation quand même, paru donc aux éditions Fayard. Alors je voudrais que l'on commence, si vous le voulez bien, par ce que l'on a entendu il y a un instant, ce que l'on appelle le scandale Nestlé Waters. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qui s'y colle en premier?
Je peux y aller?
Allez, on y va.
Alors, Nestlé Waters, en fait, c'est un scandale, c'est une fraude commerciale, c'est une tromperie avec une entreprise, une multinationale donc, qui produit des bouteilles d'eau de source ou d'eau minérale, qui a filtré son eau de source comme on filtre de l'eau du robinet. Donc appliquer des traitements en fait de filtration, des traitements pour retirer les microbes et les polluants dans ces sources d'eau minérale avant de les vendre. Alors l'idée c'est évidemment de protéger le consommateur, mais là où on a un problème c'est que du coup on ne peut plus donner l'appellation d'eau minérale ou d'eau de source, voilà, parce que c'est de l'eau qui a été traitée comme de l'eau du robinet.
Donc ce que dit la loi c'est que ces fameuses eaux de source ou eaux minérales qui sont dans nos bouteilles d'ordinaire sont telles qu'elles sortent de je sais pas quoi d'ailleurs, ça sort d'où?
Ça sort
de la source, mais enfin,
oui, ça sort
d'un tuyau quoi.
Ça sort d'une source souterraine.
D'accord, ok.
Oui, ça sort d'une source souterraine. Alors, elles sont un petit peu filtrées,
d'accord,
même pour retirer quelques microbes ou quelques polluants, mais en principe, elles ont une teneur en minéraux, quand c'est de l'eau minérale, par exemple, qui est stable, et donc on ne peut pas vraiment toucher cette eau parce qu'effectivement, elle a ses propriétés d'eau minérale ou d'autres sources.
Ok. Esther Crozer-Delbourg.
Effectivement, dans ce scandale, ce qui s'est passé, c'est que ça a été révélé que Nestlé avait filtré ses eaux alors qu'il n'avait pas le droit. La deuxième partie en fait de ce volet, c'est qu'on s'est rendu compte que donc l'État avait demandé à Nestlé d'arrêter ses filtrations, mais la deuxième
ils le savaient depuis deux ans,
mais ils ont demandé, je crois, depuis décembre ou janvier, d'arrêter les filtrations. Le problème, c'est que on vient de comprendre qu'en fait les sources d'eau minérale qui sont censées être pures étaient en fait contaminées.
C'est
en fait, on se rend compte que toutes nos eaux en France, pas qu'en France ou en Europe, en fait, ne peuvent plus être épargnées. Tout est contaminé. Est-ce que Nestlé, du coup, a arrêté de les filtrer? C'est bien le problème. Est-ce qu'on a bu de l'eau minérale non filtrée alors qu'elle aurait dû l'être, finalement, pour être au moins au standard de l'eau
on
du robinet?
Là, on ne sait pas et la question est posée. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, pour ceux qui nous écoutent, que l'eau était impropre à la consommation. Le consommateur... Alors, attends. Ah oui, ok. Est-ce que le consommateur a pu éventuellement être mis en danger par ces contaminations?
Alors,
Parce que ça équivaudrait donc à l'eau du robinet, finalement, le traitement que ces autres sources ont...
Tout à fait. Ce que dit Nestlé, c'est que justement, ils ont filtré l'eau, traité l'eau qui venait des sources d'eau minérale pour protéger le consommateur. Donc, a priori, il n'y a pas de scandale sanitaire. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que le gouvernement s'est saisi de la question, maintenant que la justice se saisit de la question, ils arrêtent de traiter leurs sources d'eau. Et donc, on se demande s'il y a un risque sanitaire, en fait. On se pose beaucoup de questions.
Mais comment est-ce qu'elles sont contrôlées, en fait, justement, Esther, ces eaux que l'on consomme? Je parle toujours des eaux en bouteille, hein. bien.
Les embouteilles, ben en fait, il y a simplement l'ARS, donc l'Agence régionale de santé en France, et ensuite les sous-agences régionales qui font des contrôles très réguliers. Et d'ailleurs, on a pu voir des images à l'occasion de ce scandale qui a été révélé. Normalement, c'est assez rapide, les contrôles sur place, et on sait que l'eau doit être absolument pure. Je crois qu'il y a eu une dissimulation, en tout cas, des procédés de filtrage. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend du recul, en fait, ça montre bien une chose, c'est que l'eau est un sujet, qu'elle soit minérale ou qu'elle soit dans les systèmes finalement d'eau publique ou d'eau potable. L'eau ne peut pas être protégée par les impacts humains de nos activités. Toutes les eaux sont polluées. La question, c'est évidemment jusqu'à quel seuil de pollution le corps est capable d'ingérer et jusqu'à quelle quantité, quoi.
Évidemment. Et au-delà quand même de la contamination, de la pollution de nos eaux, c'est aussi que le fait que ces marques Vittel et Parc Ontrec Saint-Yor, on paye l'eau chère parce qu'on pense donc bénéficier d'une eau d'une certaine qualité et ça n'était pas le cas. Donc c'est là aussi où il y a la fraude. Donc ce que vous nous dites aussi, c'est que ce scandale en dit beaucoup sur la situation actuelle de l'eau en France, Simon Porcher. C'est là où ça révèle finalement une inquiétude qui devrait être généralisée.
Ça montre que toutes les nappes d'eau, y compris celles qui sont très protégées donc pour produire de l'eau minérale, sont polluées ou sont contaminées avec des matières fécales. Donc ça montre que toute la pollution qu'on a accumulée ces dernières années va
on
partout.
On la retrouve maintenant jusque dans les sources, quoi.
Tout à fait.
Et on peut rajouter effectivement sur l'eau minérale en particulier, alors que j'ai bu, que je bois toujours, mais qui effectivement est très contaminée en plastique aussi. On sait qu'en fait, à travers l'eau minérale, mais toutes les boissons que nous buvons, on ingère l'équivalent d'une carte bleue en termes de plastique par jour. Évidemment, on en ingère aussi à travers...
Une carte bleue par jour ?
L'équivalent d'une carte bleue en plastique. Et on en mange aussi à travers les poissons, tout simplement, que nous mangeons, qui eux-mêmes ingèrent du plastique de les océans. C'est quelque chose qu'on transmet à nos enfants à travers l'allaitement et autres. Donc on sait de toutes les façons, le plastique et la pollution sont quelque chose dont on ne se débarrassera jamais. La question, encore une fois, c'est jusqu'à comment peut-on vivre avec cette eau ? On sait qu'il y a des endroits en France où nous les avons bu, nous tous ici, et on n'a pas de problème. Par contre, il y a des régions où la contamination est telle, et par exemple, on l'a vu à Pierre-Bénite, dans le sud de la région lyonnaise, que là, il y a eu des vrais problèmes de santé. Donc la question, encore une fois, c'est quel est le seuil et à quel point on est exposé en fait, à cette contamination.
Vous restez avec nous, vous allez répondre justement à toutes nos questions. Vous l'avez compris, l'eau est au cœur de nos préoccupations ce soir dans Jour J. Et puis en dehors aussi du scandale qu'on vient d'évoquer, la situation et l'avenir de l'eau sont véritablement préoccupants. Les projections à 2050 nous donnent comme une envie d'agir dès maintenant, car comme dit Jean-Claude Van Damme,
j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
On s'intéresse ce soir à l'eau avec nos invités que sont Esther Crozer Delbourg et Simon Porcher. Ce sont des spécialistes justement de la question de l'eau. Et alors Esther, j'ai l'impression d'avoir une carte Visa dans la gorge là depuis que vous nous avez expliqué que aujourd'hui en fait on ingère en consommant de l'eau, on ingère l'équivalent d'une carte bancaire en plastique.
Par jour, tout à fait.
Par jour ?
Absolument. C'est pas étonnant, mais c'est pas que à travers l'eau, c'est à travers tous nos usages alimentaires ou tout ce qu'on boit qui a touché du plastique. On sait que le plastique, de toutes les façons, se retrouve sous forme de micro-particules absolument partout. Et même dans notre alimentation, il y en a. On sait que les poissons ingèrent du plastique dans l'océan et on le récupère à travers. La question, encore une fois, c'est jusqu'à combien de temps, jusqu'à quelle quantité en fait, de plastique on peut ingérer par jour ? Et est-ce que c'est vraiment nocif à terme ou pas ? Ça, c'est très compliqué de le déterminer. Mais ne soyons pas que pessimistes, quand même. L'hygiène aujourd'hui et puis les contenants alimentaires évoluent vers quelque chose de beaucoup plus favorable à la santé humaine.
Simon ?
Tout à fait, oui. Alors, il faut penser évidemment pas seulement à l'eau, mais à tous les aliments qu'on peut ingérer, à tous les contenants des aliments qui sont souvent en plastique, donc on ingère du plastique indirectement. Oui. Mais c'est bien de le rappeler, effectivement, les bouteilles d'eau en plastique contiennent des microplastiques qu'on ingère, ce qu'on n'a pas dans l'eau du robinet.
Voilà, alors c'est bien là le problème. C'est est-ce que je bois de l'eau du robinet en ayant l'inquiétude qu'elle ne soit pas de bonne qualité ? Il y a certaines régions de France, il y a une inégalité sur l'eau du robinet.
Oui, de façon générale, on sait qu'il y a des endroits en France où... Alors déjà, le premier facteur d'inégalité, c'est le goût. Souvent, en général, on se détourne de l'eau du robinet parce qu'on se dit « Ah, elle est moins bonne, tiens, je la préfère chez moi ou chez mes parents. »
Donc on est d'accord qu'elle a un goût quand même.
Elle a un goût parce qu'elle est nettoyée. Donc en fait, en fonction de la quantité de chlore qu'on met pour nettoyer, forcément, ça se ressent de façon plus ou moins forte. Il y a de l'eau plus ou moins calcaire, etc. Donc oui, elle est inégale sur le goût. Donc ça, c'est la première chose, c'est « J'aime pas l'eau, je vais me tourner vers l'eau minérale ou vers un filtre. » C'est la première chose. Et ensuite, effectivement, sur la pollution de l'eau, l'eau, elle capte en fait toutes les activités humaines qu'il y a autour. Donc que ce soit des pollutions agricoles ou industriels, on ne peut pas toujours mesurer ni contrôler la qualité de ces rejets. Donc forcément, c'est un impact. Et on sait que les régions agricoles, souvent, c'est malgré eux, mais forcément, les effluents qui viennent des pesticides ou d'autres usages se retrouvent dans l'eau et potentiellement se retrouvent à microdose dans l'eau du robinet.
D'accord, donc dans l'eau du robinet et dans l'eau donc de source, j'imagine que c'est le même principe, c'est que l'eau de source doit, et on l'a vu à travers le scandale donc de Nestlé Waters, Simon Porcher, l'eau de source se charge aussi finalement de cet environnement, c'est-à-dire que ça touche aujourd'hui les nappes phréatiques.
Tout à fait, mais l'eau de source est plus protégée, hein. Donc soit c'est plus profond, d'accord, soit c'est plus protégé justement parce qu'on laissait l'eau de source être exploitée par des entreprises donc qui s'assuraient aussi de la protection du terrain, mais on retrouve les mêmes polluants dans l'eau de source que dans l'eau du robinet.
Bien barré. Et donc, en fait, si je schématise, le mieux, c'est de prendre de l'eau de source en bouteille.
Pour moi, le mieux, c'est quand même de boire l'eau du robinet. Ah. Mais évidemment, il faut regarder quand même le contenant en pollution de l'eau du robinet. À chaque fois qu'on trouve un nouveau polluant, on va le traiter derrière. Donc,
d'accord,
l'eau du robinet est quand même traitée. Donc, même quand la source est polluée par les activités agricoles ou industrielles, okay, on fait en sorte de la traiter pour qu'elle soit potable. Et en France, on a un taux de qualité de l'eau du robinet qui est très bon.
Comment est-ce que je suis informé justement de la qualité de l'eau qui sort de mon robinet en fonction de l'endroit dans lequel je vis?
Alors, il faut regarder sur le site du ministère de la Santé, santé.gouv.fr, où là, vous retrouvez effectivement les tests de qualité des eaux. S'il y a des problèmes de qualité d'eau, votre mairie vous informe, de toute façon, dans votre commune. Le petit problème, et c'est là qu'il y a un manque de confiance dans l'eau du robinet, c'est que dès qu'on teste un nouveau polluant, souvent on va le retrouver dans l'eau du robinet, mais ensuite on va se mettre en marche pour le retraiter et pour le faire sortir de cette eau du robinet.
C'est quand même une énorme préoccupation, hein, cette eau. Hein. Et il y a une vraie rupture de confiance. Même le scandale là, de Nestlé Waters, Esther, n'arrange pas la relation que peuvent avoir finalement les consommateurs avec l'eau qu'on leur propose.
L'eau qu'on boit tous les jours, c'est notre de survie.
Oui, mais c'est ça, c'est vital.
Voilà, et on ne se rend pas compte que c'est un service qui est extrêmement bien fourni en France, parce qu'effectivement, on a l'eau du robinet 24 heures sur 24, mais on a de l'eau quand même relativement propre, et ce n'est pas le cas dans beaucoup de régions du monde. Ce n'est pas le cas déjà dans certaines régions du sud de la France, qui ont connu quand même des problèmes de sécheresse tels qu'ils ont dû être alimentés par des bouteilles en eau minérale, justement, et là, on est bien content quand même d'avoir l'eau minérale à disposition, mais ce n'est évidemment pas une solution durable. En fait, le problème de l'eau, c'est qu'il y a l'eau à boire, qui, elle, correspond à peu près à 10% de l'eau qu'on consomme tous les jours. Et après, il y a les 90% restants, autre eau que nous consommons sans l'avoir, qui est nécessaire pour produire tout ce que nous mangeons, utilisons, etc. Et donc finalement, le problème de l'eau, il est non seulement pour la santé humaine, mais il concerne aussi toute notre économie. Et ça, on ne le voit pas non plus.
Eh bien, c'est ce dont on va parler dans un instant. On va quitter le robinet, les bouteilles d'eau des rayons donc des supermarchés. Vous allez nous expliquer ce qu'est le stress hydrique. C'est quand on manque d'eau, quoi, Simon Porcher, la définition rapide du stress hydrique.
Tout à fait, c'est une mesure qui montre au niveau d'un territoire qu'on manque d'eau.
D'accord.
Pour la définir, en fait, c'est le rapport entre l'eau qui est prélevée et l'eau qui est à disposition du territoire, donc qui vient de la pluie et qui ne s'est pas évaporée.
Eh bien, il y a la menace, justement, sur notre pays, sur certaines régions de France, et on voit bien que le réchauffement climatique en a mis un coup aussi ces dernières années. On a eu des restrictions d'eau dans certaines régions. On voit bien que les choses sont en train de changer. Eh bien, on va en parler dans un instant, et puis vous allez nous expliquer ce qu'est ce cycle de l'eau. Il y a des moments où je me dis, mais si elle est recyclée, l'eau, comment on peut en manquer puisqu'elle est recyclée? Eh bien, vous allez tout nous dire. À tout de suite sur RTL.
Au fil d'un circuit naturel ininterrompu, l'eau effectue un long voyage sur Terre et contribue ainsi depuis des millions d'années au cycle de la vie. Mais le changement climatique généré par l'homme remet en cause l'équilibre de ce système.
Esther Crozer, Delbourg, Simon Porcher, vous venez de reconnaître le documentaire dont on a extrait ces quelques mots qui est diffusé sur Arte. Vous êtes les invités de Jour J ce soir pour parler de l'eau. Il y a un an déjà, l'ONU faisait un constat alarmant sur les ressources mondiales en eau. Pourtant, il y a quelque chose déjà qui nous échappe, nous qui n'y connaissons rien, qui ne sommes pas des économistes de l'eau. Ben, on se dit que de l'eau sur Terre, il y en a, quoi. Enfin, la quasi-intégralité finalement de la planète en est recouverte. Comment est-ce qu'on peut en manquer, Esther ?
Alors, déjà, l'eau, il faut savoir qu'il y en a beaucoup sur la planète, c'est vrai, mais elle est inégalement répartie. Donc déjà, on part avec soit du favoritisme quelque part hydrologique, ou alors on est défavorisé. Et puis ensuite, avec le changement climatique, c'est vrai que l'eau, effectivement, elle s'évapore. C'est ce qu'on a appris à l'école. C'est le cycle de l'eau qui fait que l'eau, elle part des arbres et de la pelouse et des herbes. Elle transpire comme la peau transpirerait de l'eau. Cette eau, elle part dans l'atmosphère et puis elle retombe sous forme de pluie. Le problème, c'est qu'avec les activités humaines, on a oublié qu'en fait, en positionnant nos activités qui prélèvent beaucoup trop d'eau, qui la polluent et qui, en plus, avec le changement climatique dégagé par les activités humaines, on modifie le cycle du climat qui fait retomber l'eau chez nous, et bien plus rien de tout ça n'est valable. En fait, le cycle de l'eau est complètement perturbé. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a une eau qui est de plus en plus inégalement répartie. Et ça, l'homme a joué, on va en parler, une cause là-dessus. Et le peu d'eau qui nous reste, en fait, est pratiquement pollué, comme on l'a vu juste avant. Donc, ce cycle de l'eau, finalement, ne nous nourrit plus et ne nous permet plus de survivre comme on a pu le faire avant.
D'accord. Et puis, il y a une véritable différence entre l'eau de mer et l'eau douce propre à la consommation, Simon Porcher.
Tout à fait, l'eau de mer, c'est 97,5% de l'eau sur la Terre, d'où le nom de planète bleue. Et puis les 2,5% restants, c'est de l'eau douce, mais sur ces 2,5%, il n'y a que 0,5% qui est à l'état de liquide et dont on peut disposer.
Et donc c'est ça qui pose question, en fait, parce que c'est si peu.
C'est peu. Alors après, ça c'était suffisant pour nourrir la planète jusqu'à maintenant. Mais effectivement, il y a à la fois le réchauffement climatique qui redistribue les cartes parce qu'on se retrouve avec des pluies diluviennes, par exemple. Donc on n'arrive pas à capter de l'eau, ça crée des inondations ou des périodes de sécheresse. Et puis il y a la croissance démographique. On est de plus en plus nombreux. On a des niveaux de vie qui évoluent aussi et qui sont de plus en plus consommateurs d'eau. Et donc ça pose les questions de la quantité d'eau disponible.
Mais est-ce qu'on a des réserves d'eau ? Je ne sais pas comment le dire, en fait. Est-ce que... Oui, ça existe ?
Oui, on a nos réserves d'eau qui sont dans les nappes souterraines du Comment.
Donc, on va expliquer à ceux qui nous écoutent. Sous nos pieds, grosso modo, il y a des nappes phréatiques.
Tout à fait, oui.
D'accord. Donc, ce sont comme des grandes piscines d'eau ?
Alors, ce n'est pas exactement des piscines. Ça s'infiltre dans la roche. Mais on a de l'eau, effectivement, sous nos pieds. Et on a de l'eau aussi sur Terre, hein, donc de l'eau de source qui peut être potabilisée.
D'accord. C'est un peu une ruche d'abeilles, si vous voulez.
D'accord, avec des alvéoles.
De l'eau qui s'infiltrait un petit peu partout. Voilà. D'accord. C'est pas une piscine en soi, c'est plein d'eau qui s'infiltre à plein de pierres. Ouais.
Et donc ces nappes, en fait, elles sont enrichies et régulièrement alimentées par ce fameux cycle de l'eau que vous évoquiez,
Absolument.
Esther.
Une partie de l'eau de pluie qui tombe et qui s'infiltre dans les sols et qui après vient recharger les nappes. Si les nappes ont du mal à se recharger en France, mais aussi partout ailleurs, c'est parce qu'en fait, on a des déficits pluviométrique assez important, pile au moment où les nappes peuvent se recharger. On rappelle qu'en fait, une nappe, elle se recharge quand l'eau tombe sur le sol et qu'il n'y a pas de végétation avant pour la capter. En mars-avril, quand la végétation commence à pointer son nez, hop, elle chope toute l'eau qui va tomber en disant « tiens, c'est pour moi, je vais en profiter pour grandir », alors que dans la période, on va dire, de octobre à mars, il n'y a plus de végétation, elle dort, ce qui est le cycle de la vie, et ce qui permet à l'eau justement de pouvoir aller alimenter ces fameuses nappes.
Donc en fait, contraindre le cycle de l'eau par les activités humaines, on va y revenir, par l'industrie, par l'agriculture, par le réchauffement climatique et tout, contraindre le cycle de l'eau, c'est finalement contraindre nos ressources. Si j'ai bien compris.
Il faut prendre soin de ce cycle de l'eau, en fait, hein, justement, qui est frappé par le réchauffement climatique. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour ralentir le réchauffement climatique, privilégier un cycle de l'eau normal, c'est-à-dire évite des périodes de pluies diluviennes ou des sécheresses trop fortes et un retour à la normale. Et puis aussi, favoriser nos sols, prendre soin de nos sols, parce que nos sols vont infiltrer l'eau, justement, dans les nappes. Et donc, si nos sols sont asséchés ou sont trop pollués, l'eau qui va se retrouver dans les nappes va être polluée ou... voire l'eau ne va même pas arriver dans les nappes.
Voilà, parce qu'il faut le préciser, quand un sol est trop asséché, finalement, l'eau n'arrive même plus à le pénétrer. Donc, l'eau circule et glisse sur le sol, mais ne va pas atteindre les nappes phréatiques. Donc là, on a posé les bases. Super, donc là, l'élève a bien compris. Bon, les chiffres maintenant sur la situation de l'eau dans le monde et en France. Concrètement, vous nous l'avez dit, le stress hydrique, c'est consommer plus d'eau que nous n'en avons dans les réserves. Le stress hydrique, il concerne quelle région du monde aujourd'hui ?
On a une ligne horizontale de la soif hein, qui va de l'ouest des États-Unis et du nord du Mexique jusqu'à l'est de la Chine. Donc toute la région qui se retrouve au milieu, en passant par le bassin méditerranéen chez nous et le sud de la France d'ailleurs, est dans cette ligne horizontale de la soif, est touchée justement par le manque d'eau.
La ligne de la soif ? C'est la première fois que j'entends ça. Ok. Donc cette ligne de la soif, elle est touchée par des pénuries d'eau, donc ça veut dire que là, elle est en stress hydrique.
Tout à fait, on est en stress hydrique.
Il y a des stades dans le stress hydrique ?
Il y a différents stades, oui. Alors nous, par exemple, en France, on est à peu près à 20% sur l'indicateur de stress hydrique. Quand vous êtes au-delà de 50%, au-delà de 30% même d'ailleurs, vous entrez en stress hydrique. À 50%, vous êtes en stress hydrique dans des régions désertiques. Type Moyen-Orient, etc., on est quasiment à 100%. Mais c'est dramatique, ça veut dire qu'on consomme quasiment en fait, toute l'eau qui tombe par la pluie. pour nos activités humaines, et donc quid de la nature en fait. Qu'est-ce qu'on va laisser à la nature?
C'est ça. Et ça n'est pas parce qu'on ne parle que du bassin méditerranéen que le Nord n'est pas concerné aussi par ces problématiques, Esther.
Effectivement, alors c'est vrai que le changement climatique rabat les cartes, et en fait il y a des endroits qui avaient déjà beaucoup d'eau qui vont en avoir beaucoup trop maintenant, c'est ce qu'on voit, et puis des endroits qui n'en avaient pas assez et qui vont en avoir encore moins. Donc là-dessus, effectivement, il y a quelque chose, il n'y a pas de chance. Si on revient bien sur cette distinction de la disponibilité de l'eau pour notre eau de survie, notre eau du quotidien, qui sont en France ces fameux 150 litres d'eau dont on a besoin tous les jours pour vivre dignement. Ça paraît beaucoup, mais
énorme.
Il faut s'imaginer qu'aux États-Unis, on est plutôt autour de 380 litres par jour. En Inde, on sera plutôt autour de 50-60. Et un dernier chiffre, faut pas trop alourdir, mais l'ONU considère que pour vivre dignement, il faut 25 litres d'eau par jour. Nous, on est à 150 en France, donc on a de la marge.
Ok.
Mais ça va nous amener à ces sujets de tarification d'eau essentielle, etc. Mais donc, si on prend cette eau-là, dans le monde entier, il y a quand même largement de quoi faire. Le problème, c'est comme on utilise un peu l'eau n'importe comment, n'importe où et pour n'importe quoi, comme on n'a jamais compté l'eau, on a toujours considéré que c'était un problème aussi de pays en voie de développement, et bien on s'est privé en fait d'années et d'années de politique, de gouvernement, d'institutions. Tout ce qu'on a fait en fait sur le pétrole ou sur le charbon,
c'est ça.
On l'a jamais fait sur l'eau. On n'a jamais été capable de gouverner l'eau.
Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas la valeur du pétrole et du charbon, comme par hasard. Mais ça prend de la valeur, justement. On va se retrouver dans un instant, parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le traitement des eaux usées, sur le fait que dans les toilettes, en France, dans d'autres pays, j'imagine, enfin bon, on est affaire à de l'eau potable. Il y a quand même des questions qui se posent, quoi. Parfois, on a l'impression de marcher sur la tête quand on s'interroge sur notre consommation d'eau. Ce sera avec vous tout de suite sur RTL.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
On en apprend des choses dans Jour J, et particulièrement ce soir grâce à nos invités Esther Creuser-Delbourg et Simon Porcher, dont je vous conseille l'ouvrage aux éditions Fayard qui s'intitule « La fin de l'eau ?» Point d'interrogation, parce qu'on peut encore s'en sortir, enfin on va en parler. Esther, moi je suis sidérée. Vous nous avez expliqué donc que l'on consommait l'équivalent en mangeant, en buvant, voilà, d'une carte bancaire en plastique par jour. Et là, Simon Porcher, on va avec vous revenir maintenant sur notre consommation, puisqu'Esther a lâché une bombe aussi il y a un instant avant que l'on se quitte. Les Français ont besoin de 150 litres d'eau par jour. Aux États-Unis, vous m'avez dit combien, Esther ?
Autour de 380.
Autour de 380 litres. Alors moi, c'est pareil, je n'ai absolument pas le sentiment, l'impression, mais peut-être ai-je tort, de dépenser 150 litres de flotte dans une journée.
On consomme 150 litres d'eau du robinet tous les jours, effectivement. Une douche, c'est 50 litres à peu près. En tirant la chasse, à peu près 40 litres. 10 litres pour boire et cuisiner. Et puis 50 litres pour le lave-vaisselle, le lave-linge, nettoyer la maison, arroser les plantes, etc. Oui.
Et encore, c'est mieux d'utiliser le lave-vaisselle que de laver à la main.
Ça, il faut le dire.
On le dit.
Ça, il faut le dire.
Mais effectivement, on parle de 10 litres d'eau pour un lave-vaisselle versus 70 litres d'eau pour 12 couverts environ quand on lave à la main.
C'est-à-dire qu'on a parfois le sentiment de faire les bons gestes, alors que ça n'est pas le cas. Et vous m'avez même dit qu'on mangeait de l'eau.
Oui, alors ça, c'est autre chose. Effectivement, c'est l'idée de se dire qu'il faut de l'eau pour produire tout ce qu'on mange ou tout ce qu'on utilise. Nos vêtements, nos ordinateurs, enfin, tout a besoin d'eau. Et c'est vrai que le chiffre est assez étonnant, mais à travers tout ce qu'on mange par jour, ça évolue en fonction de ce que vous aimez manger, bien sûr, mais on mange entre 2500 et 5000 litres d'eau par jour à travers nos trois repas, à travers nos cafés du matin, à travers nos croissants, à travers la viande que vous avez peut-être mangée ce midi, à travers le vin que vous buvrez peut-être ce soir. Voilà, ça va très vite.
Alors là, vous avez visé juste justement sur le vin. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé que quand je me prenais un verre de vin, je consommais de l'eau.
Oui, alors, il faut de l'eau. Alors c'est une moyenne mondiale que je vais donner. Évidemment, en France, rappelons qu'on n'a pas le droit d'irriguer les vignes, donc forcément l'empreinte eau, elle diminue beaucoup. Ouais. Mais on estime que dans le monde, une moyenne mondiale, il faut environ 120 litres d'eau pour produire un seul verre de vin. Ça prend bien en compte toute l'eau, c'est-à-dire même l'eau de pluie qui a servi à faire pousser naturellement la vigne, celle-là on la prend en compte, ça c'est important de le comprendre. En Espagne, on irrigue les vignes, donc ça va être plus. En France, ça va être un peu moins que 120 litres. Mais il y a de l'eau dans tout, dans les boissons gazeuses que nous mangeons, il y a de l'eau dans la viande évidemment, il y a de l'eau dans les céréales, voilà, il en faut vraiment pour tout.
Quelle est l'alimentation qui nécessite le plus d'eau ?
Voilà, je tiens à déculpabiliser.
Oui, oui, bien sûr.
Moi, je mange de la viande
Et donc c'est ça en fait,
c'est la viande. Voilà. Mais c'est la viande rouge en particulier qui a l'empreinte eau la plus forte. On parle de, et c'est évidemment à prendre avec caution en fonction de comment on calcule, mais on parle de dizaines de milliers de litres d'eau pour un seul kilo de bœuf.
Ok, non mais c'est hyper intéressant, hein. C'est, on pose les bases mais on apprend énormément de choses à travers les chiffres que vous nous donnez et que vous portez à notre connaissance, parce qu'on se rend compte qu'on est très ignorant sur la question de l'eau. Je voudrais qu'on parle maintenant de la question des eaux usées. Pourquoi est-ce que notre gestion est à revoir, la gestion des eaux usées? Simon Porcher.
En France, on collecte et on assainit l'eau qu'on consomme. Donc ça veut dire, avant de rejeter l'eau dans le milieu naturel, on va la traiter, on va retirer un certain nombre de bactéries de manière à pouvoir la rejeter justement dans le milieu naturel sans trop polluer le milieu naturel.
D'accord.
Au niveau mondial, 80% de l'eau qui est rejetée, donc qui a été consommée par des ménages, est rejetée sans traitement, sans assainissement.
Donc,
directement dans la nature.
Mais où dans la nature?
Dans la nature, dans des cours d'eau par exemple, mais ça veut dire qu'on rejette toutes les matières fécales par exemple directement dans la nature, au niveau mondial. Mais dans les pays industrialisés comme en France, on traite l'eau, d'où l'enjeu en fait qui est vraiment aussi le traitement des eaux usées dont on parle pas assez. On parle beaucoup de l'accès à l'eau, mais derrière il y a aussi le traitement des eaux usées pour ne pas recontaminer toutes les sources d'eau qu'on va utiliser après pour le robinet.
Esther ?
Oui, en fait, vous nous parliez tout à l'heure de est-ce qu'on a des stocks d'eau ? Où est-ce qu'ils sont ? Alors, on a parlé des stocks d'eau naturels, que sont notamment les nappes phréatiques, mais c'est vrai qu'en fait, on a à notre disposition des technologies qui sont pas très compliquées et pas très chères. C'est celle de nettoyer nos eaux usées et celle de recycler l'eau localement quand on peut, ou de capturer les eaux de pluie aussi directement. En fait, c'est trois solutions extrêmement, alors, plus ou moins simples en fonction des endroits, mais qui sont pas miraculeuses, mais qui existent et qui peuvent en fait complètement sauver nos ressources en eau si on les met en œuvre assez rapidement.
Mais par exemple, mon eau du robinet, l'eau de ma machine, l'eau de ma douche, l'eau de mes toilettes, est-ce que tout va au même endroit ?
Alors, ça dépend de l'endroit, justement.
D'accord.
Mais si vous prenez Paris, par exemple, c'est collecté dans... Ça devient de l'eau des égouts, en fait.
Hein, d'accord.
Qui est recollecté.
Okay. Donc, tout est mis ensemble, ok.
Voilà, exactement, oui, qui est réassaigné avant d'être rejeté dans le milieu naturel.
Alors, avant d'être rejeté dans le milieu naturel. Oui. Mais l'eau qui sort de mon robinet, elle vient d'où, alors ?
Alors là, elle vient de nappes phréatiques, justement, ou de sources d'eau de surface.
Ah.
Et c'est une eau brute, mais qui ensuite est traitée, hein, donc qui est rendue potable.
C'est pas la même eau qui est en circuit fermé, c'est-à-dire que les eaux usées partent dans le milieu naturel et les eaux que je consomme, même l'eau que je consomme de mon robinet, c'est-à-dire qu'en fait, je prends dans une source pour rejeter dans la nature, c'est ça?
Exactement, oui. Alors ça peut être, si on pense en termes de circuit, ça peut être effectivement la même eau, mais en fait, ça, c'est sur une temporalité qui est complètement différente.
D'accord, ok. Moi, je pensais que l'eau, elle était nettoyée et qu'elle revenait dans mon robinet. Mais visiblement, j'étais la seule à penser ça. Mais vous voyez, je ne savais pas du tout que ça repassait par... Okay.
En fait, vous n'êtes pas la seule. 50% des Français, je crois, croient qu'effectivement, l'eau qu'ils boivent, c'est une eau recyclée sur place et donc potentiellement l'eau des toilettes, ce qui n'est pas du tout le cas en France.
Alors, justement, on va filer sur la côte ouest des États-Unis, là-bas, l'eau du robinet n'est pas celle que l'on imagine.
De l'eau des toilettes, qui redevient de l'eau potable. Cela paraît à peine croyable, mais c'est bien cette eau qu'on boit dans tout le sud de la Californie. Cette eau vient de vos toilettes.
Oh, wow.
Vous trouvez ça dégoûtant?
Yeah. Oui, c'est même choquant.
C'est crade quand même.
C'est pas idiot comme système, Esther.
Il faut savoir quelque chose, c'est que donc l'eau des toilettes, ce qu'on appelle de l'eau noire, et l'eau qui vient de la douche ou du robinet après avoir lavé la vaisselle, ce qu'on appelle les eaux grises.
Ok.
En France, une loi va passer pour effectivement autoriser dans les milieux domestiques la réutilisation des eaux grises, qui est aujourd'hui interdite. Hein.
D'accord.
On n'a pas le droit d'utiliser par exemple l'eau de la douche pour la remettre dans les toilettes aujourd'hui. Mais normalement, ça va passer. Une loi qui va nous permettre de le faire.
Parce que c'est une ineptie. On est bien d'accord que l'eau des toilettes soit de l'eau potable.
On est d'accord, mais tout ça date en fait de période où on n'avait pas de problème d'eau, on ne se posait pas la question, et vous imaginez en fait, en termes de plomberie sur le territoire français, c'est d'aller chercher, d'ouvrir, regarder ces tuyaux qui n'ont pas changé depuis des centaines d'années derrière des murs que personne n'a envie de toucher, et c'est en fait ça. C'est pour ça que c'est aussi long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
On est victime de ce qui a été mis en place il y a si longtemps. Quoi. Ça nécessiterait effectivement de revoir l'ensemble finalement de la plomberie française, Simon Porcher.
Ça nécessite de recréer un réseau effectivement juste pour ces eaux grises. Donc on peut le faire dans des nouveaux bâtiments. Par exemple, si on crée des nouveaux quartiers ou des nouveaux condominiums, là on peut retraiter les eaux sur place. Mais effectivement, sinon ça coûte très cher et ça veut dire équiper chaque logement. Donc là, ça semble quasiment impossible.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Concrètement, sur la vie des gens, ça donne quoi le stress hydrique ? Qu'est-ce qu'on envisage pour 2050 ? On va filer aussi en Colombie, parce qu'à Bogota, figurez-vous qu'on vient de prendre une décision radicale. L'eau est rationnée, l'eau potable. Bref, beaucoup de choses à se dire. À tout de suite.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Avant de voir l'impact du stress hydrique sur notre vie, même si on s'en rend déjà compte hein, depuis quelques années, j'aimerais, Esther Creuser-Delbourg et Simon Porcher, puisque vous êtes nos invités, que l'on aborde maintenant les causes de cette problématique de l'eau dont on parle et qui est passionnante depuis le début de cette émission. On a le sentiment quand même, Simon Porcher, qu'à titre personnel, on peut essayer de poser des actes, de prévenir cette raréfaction de l'eau. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'industrie ou l'agriculture ont une grande part dans la problématique que l'on aborde ce soir.
On est tous concernés. Donc l'agriculture, l'industrie doit effectivement faire des économies d'eau. Il faut déshydrater tous nos processus agricoles et industriels. Mais nous aussi, on a un rôle à jouer avec des éco-gestes, effectivement. Pas de prendre des douches trop longues.
Pas de bain déjà ?
Pas de bain si possible, voilà. Alors il faut aussi, si on a besoin de prendre une douche longue ou un bain, il faut le faire. Si on a besoin d'aller dans une piscine, il faut le faire. Mais d'une manière générale, surtout quand on est dans des zones sèches, là il faut par contre limiter son temps de douche, couper le robinet autant qu'on peut et ne pas gaspiller l'eau. En fait, c'est surtout ça, ne pas surconsommer, ne pas gaspiller. Ensuite, pour notre dignité humaine, pour notre hygiène, pour survivre, évidemment, on a besoin de consommer de l'eau.
D'accord. Au niveau des entreprises, au niveau de l'industrie, de tout ça, est-ce que ce sont eux les grands responsables, Esther ?
C'est vrai qu'il faut faire attention déjà à regarder de quel type d'eau on parle. Effectivement, oui. L'industrie et l'agriculture et l'énergie sont les premiers consommateurs de l'eau en France. Et l'usage domestique vient loin derrière. Bon, le problème, c'est que effectivement, notre activité économique ne peut pas se passer d'eau, tout comme on ne peut pas se passer d'eau à la maison. Donc la question, c'est bien regarder où est-ce qu'on est et est-ce qu'on manque d'eau. Si on utilise de l'eau mais qu'on est dans une région où il y en a, quelque part c'est pas grave. Il faut pas qu'on culpabilise ou qu'on rentre dans net zéro de l'eau, etc. Bon, par contre, quelque chose d'important à savoir, c'est que par exemple, quand vous ouvrez le robinet pour vous laver les dents et que vous laissez l'eau couler, bon, en soi, c'est pas grave, mais le système ne sait pas, par exemple, que l'eau que vous avez laissée couler, elle est restée propre. L'eau que vous avez gâchée, pour le système, elle est sale. Donc elle va revenir, de toutes les façons, se faire nettoyer comme si elle était sale. Et donc elle va mettre plus de pression sur le système parce qu'elle va utiliser de l'énergie. Donc en fait, quand on gâche de l'eau, c'est comme si on gâchait de l'énergie pour la nettoyer. Ouais. C'est là que les éco-gestes deviennent vraiment intéressants, impactants. C'est une goutte d'eau, moi je trouve ça bien parce que finalement, agrégé, ça fait des millions et des millions, finalement, d'unités d'énergie économisées. Et ça, c'est pas négligeable, en fait.
Je voudrais qu'on parle justement du stress hydrique et de l'impact que ça peut avoir sur notre quotidien. À Toulouse, l'eau, maintenant, elle est plus chère en été. Il y a une augmentation de 42% qui a été annoncée aux habitants. Avoir une piscine deviendrait presque une ineptie dans certaines régions. La vente de piscines hors sol, par exemple, a été interdite dans les Pyrénées orientales. Donc, on s'adapte aujourd'hui et on est en train de prendre la mesure, à travers des décisions comme celle-ci, de la problématique que l'on a.
Oui, tout à fait. Alors, l'augmentation de la tarification, du tarif de l'eau en été, ça c'est plutôt une bonne idée à mon avis. Ouais. Parce que ça envoie un signal. Ça va pas changer le fait que si vous avez de l'argent, vous allez remplir votre piscine ou que vous puissiez prendre un bain tous les jours. Mmh. Mais par contre, ça envoie un signal de rareté à une certaine période aux consommateurs. Mmh. Très important de dire que l'eau est rare à un certain moment, plutôt en été, hein, et sur certains territoires, donc quand on est face à de la sécheresse, effectivement, il faut appliquer une tarification qui renvoie, qui signale le fait que l'eau devient rare.
Je rejoins Simon, effectivement, sur le fait que c'est un signal très important. Attention, par contre, à certaines pratiques qui ont eu lieu, notamment, c'est vrai que les piscines, l'année dernière, on s'est rué sur ce système en disant « c'est pas juste qu'il y ait des gens avec des piscines et des gens sans ». On va avoir besoin d'une certaine forme de fraîcheur en été. Il fait beaucoup trop chaud maintenant, donc on a besoin d'espaces d'eau, qu'ils soient publics ou privés. Et soyons intelligents, on peut garder des piscines, mais il faut absolument les bâcher pour limiter l'évaporation. Il faut les nettoyer régulièrement pour éviter d'avoir les vidangers. En fait, soyons intelligents sur notre utilisation de l'eau pour pouvoir en faire profiter un maximum.
Est-ce qu'on peut se retrouver un jour comme la ville de Bogota, donc c'est la capitale de la Colombie, à prendre une décision radicale et à rationner notre eau potable ? Simon Porcher, est-ce que ça peut exister, ça ?
C'est ce qui se passe, en fait, quasiment dans les Pyrénées orientales. On va très probablement rationner l'eau et...
Elle est coupée pendant 24 heures, une fois tous les 10 jours.
Elle est coupée pendant 24 heures, une fois tous les 10 jours sur les quartiers, puis on incite aussi aux éco-gestes. Alors, la particularité quand même de Bogota par rapport à des villes européennes, c'est qu'on a à la fois une population qui a accès à l'eau, mais aussi une grosse partie de la population qui vit dans des bidonvilles et qui n'a pas du tout accès à l'eau.
Oui, déjà.
Voilà. Donc ça, c'est une première particularité. Ça montre l'importance de l'accès à l'eau et ça montre que ça n'est jamais garanti. Mais les Pyrénées-Orientales, cet été, on risque d'avoir des mesures de restriction de l'eau qui vont être très fortes et qui pourraient peut-être être comparables.
On se retrouve tout de suite dans Jour J sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Ainsi qu'Esther Crozer-Delbourg et Simon Porcher. Alors, vraiment, on prend conscience ce soir de l'importance de la raréfaction de l'eau. On a parlé il y a un instant du stress hydrique de la ville de Bogota et vous m'avez dit, Simon Porcher, que dans les Pyrénées-Orientales, on pourra se retrouver à rationner l'eau si l'on manque d'eau potable, à raison donc de 24 heures à peu près tous les 10 jours. Tout le monde n'est pas prêt non plus à ce genre de mesures et à ce genre de vie. Mais les prédictions, les projections à 2050, si on ne fait pas quelque chose, elles sont un peu flippante quand même, non ?
Mais tout à fait. Alors ça dépend.
Qu'est-ce qu'on nous dit en fait du pays ?
Ça dépend des endroits. Alors même quand on prend la France, hein, ouais. Le nord de la France effectivement va continuer à avoir des précipitations importantes en hiver, donc les nappes devraient se recharger. Mais le sud de la France, tout le bassin méditerranéen va être touché par des sécheresses qui vont être de plus en plus fortes en été. Et donc toute la question du rationnement de l'eau, de la réglementation de la population en été, donc de la population touristique par exemple, ou de mesures encore plus fortes, hein, peut-être d'interdiction de piscine, d'interdiction de création de nouveaux logements, se pose pour tout ce bassin méditerranéen en France à l'échelle 2050, hein, évidemment, à l'horizon 2050.
Voilà. Sauf si on fait quelque chose.
Sauf si on fait quelque chose, mais ce quelque chose, alors ça implique d'utiliser des solutions techniques qu'on connaît, hein, le dessalement de l'eau de mer par exemple, alors, notamment sur le bassin méditerranéen.
Il y a des recherches qui sont faites pour le dessalement de l'eau de mer, Estelle ?
Évidemment, la désalinisation existe. Peut-être qu'on peut parler de Barcelone, qui est déjà confrontée à une sécheresse absolument historique. Et là, pour le coup, il y a des usines de désalinisation, même qui se baladent sur des bateaux en fait, au large des côtes et qui désalinisent en fait, au fur et à mesure. En Californie, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a des gens, effectivement, quand ils ouvrent leur robinet, c'est de l'eau qui vient de la désalinisation. Ce n'est pas du tout une solution miracle.
Ah bon, bah j'allais vous dire, en même temps, il y a tellement d'eau de mer sur le globe que...
Oui, mais globalement, en fait, pour le dire de façon très, très rapide, la désalinisation demande beaucoup d'énergie, donc il y a un autre problème, et en plus, ça pollue énormément localement. Donc c'est vraiment une solution de dernier recours quand on ne sait pas faire autre chose, quand on ne sait pas justement ouvrir le capot pour aller changer la plomberie, ou être plus sobre, ou recycler les eaux de pluie, ou recycler, ou réutiliser les eaux usées, etc.
Je disais peut-être qu'on peut faire quelque chose, parce qu'il y a un plan eau qui a été défendu par Emmanuel Macron il y a un an. C'est quoi les moyens qui vont être mis en place pour préserver l'eau, Simon Porcher ?
Alors, il y a plusieurs types de mesures, mais par exemple, il y a la réutilisation des eaux usées traitées, évidemment, mais qui est une solution, encore une fois, locale à des problèmes territoriaux. Il y a la réduction des fuites d'eau. Il faut savoir qu'on perd 20% de l'eau sur les réseaux d'eau potable, donc 20% d'eau traitée, hein, qui est potable, qui est perdue. C'est 1 milliard de mètres cubes par an, consommation de 18 millions d'habitants, hein, donc c'est énorme. Donc là, il faut réduire les fuites, il faut investir sur le réseau, hein, qui est notre patrimoine commun. Et puis ensuite, il y a d'autres mesures qui sont mises en place et qui visent à subventionner certains projets pour rendre l'agriculture plus verte, par exemple, à diminuer la consommation de certains sites industriels, on a vu, hein. Donc adapter aussi les éco-gestes au niveau de l'industrie et de l'agriculture. Donc il y a tout un tas de mesures. Le seul problème du plan eau, c'est qu'il est à horizon 2030, donc on répond à une crise de l'eau, mais on n'a pas vraiment un cap, justement, à l'horizon 2030. Et quand on parle d'eau, on a besoin d'un cap.
Et peut-être deux sujets rapides, c'est 10% de consommation en moins d'ici 2030 sur le plan eau, et en vrai on aurait pu faire beaucoup plus. Et la deuxième chose un peu dommage dans le plan, mais ça a été beaucoup commenté, c'est que le plan s'adresse beaucoup à l'usage domestique, donc à chez nous, dans nos maisons, alors qu'effectivement il parle peu de l'agriculture, il parle un peu de l'industrie, mais peut-être pas assez. Donc c'est vrai qu'on se dit, y a quand même un gros effort à faire du côté des acteurs économiques, mais c'est encore finalement les gens chez eux qui sont les plus visés.
J'entends, vous êtes des économistes de l'eau. L'eau, maintenant, sa raréfaction en fait une denrée précieuse sur les marchés financiers. On parle même de l'or bleu. C'est une réalité, ça, aujourd'hui, Simon Porcher. C'était pas le cas auparavant.
Ça existe, effectivement. Il y a des bourses de l'eau qui ont été créées. C'est pour moi une aberration parce qu'en fait, on essaie de faire de l'argent sur la sécheresse et donc sur le malheur de centaines de millions de monde.
On est d'accord.
Donc ça, je suis complètement choqué par la financiarisation de l'eau. Par contre, l'eau potable qui est traitée, c'est un bien marchand. Ça, c'est sûr, parce qu'elle est transformée, mais c'est un bien marchand pas comme les autres, au sens où il faut en garantir l'accès à un maximum de la population. Et puis, quand on parle de marchandisation, il y a une troisième chose, c'est qu'on a parfois créé des marchés pour l'eau comme ressource. Souvent pour que les agriculteurs puissent se partager une ressource en eau à un endroit donné. Donc là, on lui a donné, en fait, on a créé un marché justement pour que des agriculteurs puissent racheter de l'eau à d'autres agriculteurs. Ce qui peut être critiquable, mais ce qui est souvent une solution locale, en tout cas, et temporaire à des problèmes de ressources en eau.
Esther, le mot de la fin, ce sera avec vous et ce sera pour vous. En fait, on a beaucoup, beaucoup traité la question du CO2 ces dernières années. Or, selon vous, il est important de traiter le sujet de l'eau avant même celui du CO2.
Oui, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on parle que du CO2 et du carbone pour traiter les sujets du climat, mais il faut comprendre que sans eau, on ne capture plus de CO2. Et les scénarios du GIEC, qui disent qu'on va être à plus 2, plus 3, plus 4 degrés, reposent sur une hypothèse fondamentale qui est que les sols et les arbres vont capturer naturellement du CO2. Mais un sol sec ou un arbre sec ne capture plus de CO2, ça veut dire que si on ne résout pas le sujet de l'eau, on ne capturera plus de CO2, et donc nos scénarios du GIEC ou du climat ne vous seront plus valables du tout.
Eh bien, voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé de la sorte. On n'est pas en panique non plus, hein, c'est Simon Porcher, ça, c'est... Il ne faut pas paniquer, quoi.
Alors, il ne faut pas paniquer, mais il faut penser que la fin de l'eau peut arriver.
D'accord.
Voilà, tout simplement.
Et c'est justement la question que vous posez dans votre livre, paru aux éditions Fayard. Merci à vous deux et à très bientôt sur RTL.
Merci
à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Marc Bisset. Merci pour votre fidélité. À demain.